J'aimerais vous parler cet après-midi de ce que fait grandir en nous la pleine conscience, toutes ces qualités qui sont déjà là, mais qui peuvent pleinement s'exprimer et mûrir. Et pour commencer, quand on pratique la méditation, on cultive sati, la pleine conscience. Et c'est quoi ce sati? Ce sati, c'est une forme d'espace, de réceptivité à l'expérience, sans filtre, sans discrimination, qui accueille tout ce qui vient, que ce soit plaisant ou déplaisant, que ce soit agréable, désagréable. Qu'il y ait de l'agitation, de la tranquillité, hein, qu'il y ait des aspects lumineux ou sombres, des aspects qu'on aime bien voir ou qu'on n'aime pas bien voir. La pleine conscience, elle accueille, elle voit, elle peut nommer et voir ce qui est là. En anglais, on appelle ça le knowing. On peut le traduire par l'esprit connaissant, quelque chose qui fait acte de connaissance juste maintenant. Et c'est un potentiel qui est accessible à chacun de nous et qui se révèle quand on questionne, est-ce que je suis là maintenant? Comment est l'expérience au niveau du corps, au niveau du cœur, donc au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau cognitif, au niveau du mental? Comment est-ce que je suis en lien avec l'expérience juste maintenant? Est-ce que je fais ça? Je rejette. Est-ce que je fais ça? Youpi, super. C'est pas bon que ça dure. Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est curieux? Ou est-ce qu'il y a de la confusion? Est-ce que je peux voir la confusion si elle est là? Donc, c'est d'une certaine manière une capacité à recevoir. Hein, c'est comme si l'esprit est en mode réceptif, il reçoit quelque chose, une information, il se laisse sentir, écouter. Et ça nous donne accès à une forme d'intelligence du corps, du cœur. Bien sûr, il y a toujours notre intelligence du mental qui sait analyser, comparer, évaluer, etc. Et là, ça vient résonner, faire résonner quelque chose dans la manière dont le corps et le cœur peuvent accueillir ce qui se passe. C'est Albert Einstein qui dit: l'esprit intuitif est un don sacré et l'esprit rationnel est un serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et a oublié le don. Donc, recevoir l'expérience à travers la pleine conscience, offre un terrain pour, bien sûr, on va continuer à agir, à parler, à s'investir dans le monde. Il ne s'agit pas de rester cloîtré dans une grotte à pratiquer la pleine conscience et à devenir des ascètes, mais cette capacité à recevoir l'expérience telle qu'elle est offre un terrain nouveau pour pouvoir parler et agir différemment que nos réactivités, notre réactivité habituelle, nos programmes intérieurs, que ce soit des programmes de pensée, des programmes comportementaux. Donc on cultive cette pleine conscience pour s'incarner maintenant. Dans le corps, comme je l'ai dit, s'incarner au niveau du cœur, du mental, et mettre cette aspiration de pouvoir s'ouvrir à l'instant tel qu'il est, quoi qu'il arrive. Parce que si on y regarde bien, finalement, chaque moment de notre vie est fait de ces instants présents, même quand on pense au passé, même quand on anticipe le futur, ça se passe toujours maintenant. Donc, si on est à l'aise avec le maintenant, on est à l'aise à chaque instant. On est à l'aise partout. On est même à l'aise avec le malaise. C'est Eckhart Tolle qui le décrit bien. En surface, le présent ressemble à un moment parmi d'autres. Chaque jour de votre vie semble composé de milliers d'instants au cours desquels ont lieu divers événements. Mais à y regarder de plus près, n'y a-t-il pas qu'un seul moment? La vie n'est-elle pas ce moment, toujours? Ce moment unique, le présent, est le seul dont vous ne pourrez jamais vous échapper, l'unique facteur constant de votre vie. Quels que soient les événements ou les changements de votre vie, une chose est certaine, c'est toujours maintenant. Puisqu'on ne peut pas échapper au présent, pourquoi ne pas l'accueillir et s'en faire un ami? Ça paraît évident, mais on est comme aveuglé, on ne comprend pas. On peut le comprendre avec la tête, mais notre corps, notre cœur et certaines parties de notre esprit ne comprennent pas ça. Parce qu'on ne parvient pas à faire du présent notre ami. Il n'est jamais assez ce présent maintenant. Est-ce que juste maintenant pour vous, c'est totalement OK? Peut-être. Mais peut-être que dans quart d'heure, ça ne le sera plus. Ou à la prochaine assise, après 20 minutes, le moment présent, ça ne sera plus OK. Donc il y a le maintenant tel qu'il est, toujours, puis il y a le maintenant tel qu'on aimerait l'avoir. Et ça crée cette tension. Ça crée toute la tension. Pourquoi? Parce que notre esprit est construit sur la base de croyances, de mémoires, d'images, très ancrées. Que notre liberté, elle dépend de conditions. Le problème, c'est que ces conditions, elles ne sont jamais remplies, tout à fait, ou alors un bref instant, et elles changent. Et on fait dépendre, du coup, notre bonheur, notre paix, à des conditions auxquelles on s'attache. On parle généralement des attachements, des quatre attachements mondains. On s'attache à la reconnaissance et on a peur de la critique. Bien sûr, la reconnaissance amène une forme de joie et de bonheur. Mais plus on va s'y attacher, plus en contrepartie, il y a la peur derrière de la critique qui se met en place. On est dans un monde de dualité, il n'y a pas de chaud sans froid, il n'y a pas d'ombre sans lumière, il n'y a pas de joie sans tristesse. Et plus on va s'attacher à un pôle, on va nourrir l'autre en même temps. Donc bien sûr, avoir de la reconnaissance, ça nous fait du bien. Et c'est super quand c'est là. Et puis quand ça part, c'est super aussi. Mais c'est plus douloureux. Donc il y a ce côté de la reconnaissance qui est là, il y a l'attachement au succès et la peur de l'échec, il y a l'attachement au plaisir sensoriel et la peur de la douleur, puis il y a l'attachement au gain, notamment matériel, à la peur de perdre, à la sécurité qu'il y a derrière. Et tout ça, c'est OK, ça fait partie de l'existence humaine, si on veut. Mais c'est intéressant de voir à quel point on peut agencer toute notre vie là autour, toute notre vie. Et d'une certaine manière, du coup, toute notre vie prend racine dans une forme d'inquiétude ou de peur, des fois pas très forte, mais un peu latente. Et d'avidité, un peu. Ça prend racine là-dedans. Du coup, on est comme emprisonné par cette soif, par ce qu'on appelle, voilà, l'avidité ou la soif. Et bien sûr, comme c'est, comme voilà, que ce soit le gain, la reconnaissance, les louanges, la reconnaissance et les louanges, ça va ensemble, mais les plaisirs, tout ça, ça dure jamais longtemps. Ça finit toujours par se terminer. Ben, on continue à vouloir répéter, à rechercher ça. Donc on continue à courir encore, encore, encore. Puis des fois, on se dit, des fois, on travaille comme des dingues pendant des années à faire plein de trucs et tout. Je dis, oh, c'est bon, j'ai une augmentation. Puis, nan, nan. Puis là, je ne suis plus reconnu. Puis des fois, on se dit, mais attends, mais après quoi est-ce que je cours finalement? En fait, pourquoi je fais tout ça? Et on est tous à la même. Y a pas, des fois, on peut se questionner, mais c'est quoi le sens de tout ça? Donc on continue à courir ou à essayer de contrôler vaguement les choses pour que ça nous arrange. Mais finalement, à l'extérieur, tout est incertain. Regardez le monde aujourd'hui, qui sait comment ça sera dans 5 ans, dans 10 ans, ou même dans moins. Personne ne sait. Nos relations sont toujours incertaines. Bien sûr, on fait ce qu'on peut pour qu'il y ait une forme d'harmonie, mais on ne contrôle pas vraiment ce qui peut se passer. Ça fait partie du cœur de ce que le Bouddha appelle la souffrance ou dukkha. C'est d'être séparé de ceux qu'on aime, de devoir être avec des gens qu'on n'aime pas. Et dans le relationnel, on ne sait pas comment ça peut toujours tourner. Et c'est incertain. La santé, elle est incertaine. Regardez avec le Covid. Ou alors les gens sont toujours trop comme ci, ou sont toujours trop comme ça. Des fois je suis au volant et je me dis, ah mais si seulement les gens pouvaient conduire différemment, le monde serait mieux. Et puis ça va vite, hein, tout d'un coup ça me prend. Ah ouais, mais en fait, ça sera. Je me rends pas compte, je suis moi-même le chauffard des autres. Et il y a toujours ce si seulement, si seulement, si seulement. Le monde était différent. Mais c'est incertain, et c'est aussi incertain à l'intérieur de nous. On peut éprouver de la joie à certains moments, puis ça change, puis il y a la tristesse qui vient. Il y a tout d'un coup l'inconfort ou l'inquiétude. En nous, c'est très. Ça bouge. Tout est en mouvement, tout est changeant finalement. Et c'est Ajahn Chah qui parle bien de ça. Nous autres êtres humains, nous sommes constamment en lutte, en conflit pour échapper au fait d'être si limités. Limités par tant de circonstances que nous ne pouvons contrôler. Mais au lieu d'y échapper, nous continuons à créer la souffrance. Nous sommes en conflit avec ce qui est trop petit, avec ce qui est trop grand, avec ce qui est trop court ou trop long, avec ce qui est vrai ou faux. Et vaillamment, nous poursuivons le combat. Donc pourquoi le présent n'est jamais assez? D'une part parce que nous n'avons pas pleinement intégré la mesure de l'impermanence des choses, hein, la finitude de notre vie, de celle des autres, de notre état intérieur, de notre corps, du relationnel, de tout, de absolument tout. Et aussi, parce qu'on nous a jamais appris à accueillir le douloureux, la peine, le chagrin, le désagréable, toutes ces choses-là. On veut bien accueillir tout le reste, ça c'est ok. Mais accueillir ces parts d'ombre, la colère, la jalousie, l'envie, l'irritation, tout ça. Qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est désagréable, du moment où on ne sent juste pas que ça soit là. Il y a derrière, en tout cas c'est dans mon expérience, il y a derrière cette vague croyance que qu'en accueillant l'expérience telle qu'elle est, juste maintenant, on va comme baisser les bras, on va comme se résigner, quand on va finir englouti sous encore plus de douleur ou de chagrin. Et dans certaines situations, effectivement, tout ce travail d'acceptation mérite de le faire à deux ou avec des gens qui puissent nous accompagner avec ça. Mais accepter l'expérience comme elle est, ça ne veut pas dire se résigner et être indifférent à ce qui se passe, dire oh, pff, de toute façon. Mais c'est au contraire la première étape de quelque chose qui peut ensuite se transformer, qui peut lâcher prise. Et paradoxalement, c'est en acceptant avec humilité, juste comme on est maintenant, parfois super nul, on a l'impression qu'on est super nul, puis des fois on a l'impression qu'on est super bien, puis on peut le voir en retraite, quand les assises sont agréables, qu'on se dit, oh, c'est super, oh, je suis super bien là. Et après, tout d'un coup, ça change complètement, puis c'est dur, et puis on n'y voit, on ne comprend plus rien, il y a du doute. Puis il y a la soif d'inexistence qui dit, oh, en fait, t'es nul, là, t'y arriveras jamais. Enfin, toutes les choses qu'on a entendues ou qu'on s'est répétées à soi-même et auxquelles on croit. Donc paradoxalement, quand on accepte pleinement ce qui est juste là, donc c'est une forme de vulnérabilité, de fragilité, que peut jaillir notre plus grande force, nos plus belles qualités. Et ce qui est super, c'est qu'il n'y a pas besoin, on peut le faire juste là, à chaque instant, à chaque moment. À chaque moment, là où on est, on peut grandir. Donc on va rencontrer le corps, avec les sensations qui sont là, avec les ressentis, c'est cette coloration affective des sensations qui peuvent être agréables ou désagréables, ou ni l'un ni l'autre. On va voir comment ça se passe, comment c'est. On va accueillir tout ce qui est dans la sphère au niveau du cœur, des émotions, des états d'esprit, des pensées. Puis de voir, il y a la colère, c'est désagréable. Il y a du doute et il y a de l'agitation. Et c'est désagréable. Et comment c'est? Donc on va venir juste à la rencontre de ce qui se passe au niveau somatique, au niveau cognitif. Et ce qui est beau, c'est que d'un côté, en étant pleinement conscient de ce qui se passe maintenant, ça va révéler toutes les choses agréables. On va pouvoir les goûter pleinement, en étant conscient. Combien de fois, des fois, je me balade en forêt, et en fait, il pourrait y avoir un troupeau de chamois sur des vélos. Je les verrais même pas, et on est pris dans les pensées, puis on traverse le truc, quoi. Et quand on est pleinement là, bah, des fois on peut simplement goûter les choses simples, de l'air frais. Je sais pas si vous avez vu, je crois qu'il y avait, je sais pas si c'était des gibrettes qui volaient tout à l'heure dans le ciel, des très grands oiseaux. Puis juste s'émerveiller, la beauté, donc toutes ces choses bienfaisantes, on peut les voir dans l'instant, plutôt que de se dire, bon, bah enfin, quand je serai à la maison, oh, bah, je me ferai un super cappuccino. Il n'y a pas de cappuccino ici, je ne sais rien. Et de voir, ok, qu'est-ce qui juste maintenant peut être bon, bienfaisant, nourrissant. Mais en même temps, effectivement, la pleine conscience, elle va aussi mettre la lumière sur tout ce qui est désagréable. On ne peut pas juste choisir l'un ou l'autre, on est obligé de prendre tout le package. Donc ça va révéler des peurs, en particulier si on est longtemps assis, il peut y avoir des peurs profondes en lien à l'abandon, au rejet, à l'humiliation, à la trahison, à tout plein de choses qui peuvent être là. Ou des formes d'aversion toutes simples, hein, aux autres, au repas, aux règles, à la retraite. Au matelas trop dur, au lit trop étroit, à tout et n'importe quoi. Donc voilà, ça va révéler en même temps tout ça, toutes ces parts agréables et toutes ces parts désagréables en nous. Et j'ai hésité à mettre cette parole parce qu'elle est un peu confrontante, un peu punchy, mais c'est une parole de Durkheim, qui n'est pas le sociologue, mais un autre Durkheim qui avait pratiqué le zen beaucoup au début du XXe siècle. Il dit que l'homme sache souffrir et non qu'il ne souffre plus est la preuve qu'il est parvenu à son centre. Vu sous l'angle de l'être essentiel, vaincre la souffrance signifie être capable de souffrir sa peine. Donc, comment on se lie à ça? Ça va être tout un programme dans le Vipassana, dans la méditation. Comment on se lie à l'insatisfaction, au manque, au jugement, tout ce qui est désagréable, tout en voyant tout ce qui est bienfaisant aussi à côté, et en prenant tout ça ensemble, en ouvrant les bras, en disant ok. Et quand on cultive ainsi la pleine conscience et qu'on se met au contact de l'instant, avec ce qu'il y a de plus beau, puis en même temps ce qu'il y a de plus dur, ça fait grandir en nous nos plus belles qualités. C'est comme si la pleine conscience en elle-même, elle comportait tout ça. Mais ça se manifeste sous de différentes couleurs, si on veut. Le bouddhisme, on parle des paramis, c'est les qualités nobles de l'esprit. Là, j'en ai pris quelques-unes et puis j'en ai pris d'autres. C'est pas très exhaustif, mais c'est surtout celles qui font le plus sens pour moi. Donc c'est très subjectif. Et la première, c'est celle du courage. La pleine conscience, elle a cette qualité de curiosité. Et on dit que on ne cherche pas à ne plus avoir peur, mais à créer une intimité avec l'inquiétude ou avec la pleur. Et cette intimité, on la crée à travers la curiosité, comme si la curiosité était l'antidote à la peur. Et c'est vrai que quand on pratique la pleine conscience, on développe cet intérêt pour tout ce qui se présente. Et c'est une forme de curiosité. Et on peut même être curieux à la peur, face à la peur. Hein. C'est comme si des fois, quand on n'est pas curieux, nos peurs sont un peu comme des fantômes. On ne sait pas trop ce qu'on fuit. On ne sait pas trop de quoi on a peur. Mais de pouvoir regarder et puis mettre des noms sur nos démons, sur nos fantômes, ça leur ôte déjà une sacrée dose on dirait comment, ils nous font moins peur, quoi. On peut les voir, on peut les écouter un peu à un moment, on peut les accueillir, on peut leur permettre d'être là. Et puis il y a une sorte de familiarité qui s'installe. Donc, d'une certaine manière, on se libère, avec cette curiosité et ce courage, on se libère un peu de la peur. Et de son emprise, disons, surtout. Quand on continue à être au contact, comme ça, pleinement conscient, une forme d'authenticité se dévoile aussi. On voit vraiment ce qui est là, plutôt que de prétendre que tout va bien ou que tout va mal. On voit qu'est-ce qui se passe. On peut être plus vrai envers nous-mêmes et du coup aussi envers les autres. On le voit comment dans le social, dans le champ social, on porte des masques, on porte des rôles au travail, en famille. C'est puissant, on ne peut pas faire autrement. Mais d'être avec ce qui est nous permet de devenir de plus en plus authentique et même d'admettre, voilà, effectivement, là maintenant, j'ai été blessé, je porte une sorte de masque pour me défendre, quelque chose qui réagit, et je le vois avec humilité. Et du coup, ça nous libère d'une forme de vanité ou d'arrogance pour juste être vrai. En communication non violente, on dit ne sois pas gentil, sois vrai. Et des fois, On porte le masque de gentillesse sur nous. On a peur d'être une mauvaise personne. Juste être vrai, tel qu'on est. Bien sûr, quand on médite aussi longtemps, en étant présent, ben, il y a la patience, la qualité de patience qu'elle a, c'est un parami important. Le Bouddha a parlé de la vertu suprême. Un maître tibétain qui s'appelle Chögyam Trungpa, il disait que c'était l'état de grâce. Quand il y a la patience est là, vous êtes dans l'état de grâce, comme les chrétiens parlent de la grâce. Parce que la patience, elle témoigne d'une confiance inébranlable dans le processus de lâcher prise, de libération. Quand on est impatient sur le coussin, ça devient atroce. Ça devient compliqué. Quand on veut tirer sur la fleur, quand on veut se débarrasser de quelque chose, quand on veut transformer une expérience. Et on ne peut que accueillir ça. Il y a l'impatience. Et on voit que plus je suis dedans, plus c'est dur. Mais quand il y a la patience, on laisse faire organiquement le processus. Et on sait que ça, finalement, tout nous, comme la vie s'est déployée, comme l'univers s'est déployé, ben, de la même manière, le processus d'éveil se déploie en nous. On laisse faire le dharma en nous et on sait que ça prendra le temps que ça prendra. Mais vu qu'à la patience, on a tout le temps. Même s'il y a encore 300 vies devant nous. Voilà. Il y a la qualité de bonté qui nous permet de prendre soin, de savoir prendre soin de nous, prendre soin des autres, soin de la planète, qui amène aussi à développer une estime équilibrée de nous-mêmes, ni trop, ni trop peu. On met le moi à sa place. Et ça, comme la patience nous libérait d'une forme d'avidité, la bonté nous libère peut-être d'une forme de malveillance, de haine. Bien sûr, tout est mélangé, hein, je catégorise, mais voilà. Il y a la qualité de compassion qui, elle, est cette capacité à accueillir la peine en soi-même, la douleur, mais aussi celle de l'autre. Et en tout cas, dans ma propre expérience, ça m'amène vraiment à pouvoir pardonner. Quand je me sens blessé par des paroles de quelqu'un ou des comportements, j'essaie déjà pleinement de me laisser sentir le ressentiment et la colère. Et puis après, il y a quelque chose qui, quand le moment est venu, qui peut venir vers soi, puis sentir comment ça fait mal, puis après de voir que finalement, si l'autre a réagi comme ça, c'est que lui aussi, il a mal. Donc il y a quelque chose qui peut un peu s'équilibrer dans la nature, comprendre au niveau de la nature humaine qu'en fait, c'est juste des êtres blessés qui interagissent. Et puis finalement, le dernier dont je vais vous parler, c'est la sagesse qui conduit à une compréhension claire de la vraie nature du moi, hein, la dimension conditionnée, construite, impersonnelle de toute chose. Mais je ne veux pas trop m'attarder là-dessus, là, maintenant. Et en replaçant le moi à sa juste place, en comprenant comment il se cristallise, comment il se construit, comment on le nourrit, comment il s'attache, ben on peut, ça nous amène à une forme de lâcher prise. Ok. À pouvoir plus facilement... à moins s'agripper. C'est important que l'ego se sente bien aimé, bien soutenu. On a besoin, je pense, en tout cas, j'ai eu vraiment beaucoup besoin dans mon processus de prendre soin de mon enfant intérieur et d'être vraiment beaucoup et encore avec et vraiment d'être à l'écoute. Et puis à un moment donné, l'autre aspect, celui de la sagesse, il voit que finalement tout ça, cette déconstruction de l'esprit. Mais on ne peut pas juste y croire, il faut que ça s'implémente un peu dans le corps. Ce n'est pas juste une croyance, un truc à croire. Et là, quelque chose peut du coup un peu plus lâcher. Et ça nous libère de l'aveuglement. Donc vous voyez que toute la pleine conscience est affaire d'attitude, en fait. Une attitude sage face à ce qui se passe juste maintenant. Il n'y a rien à aller chercher, rien à atteindre, mais juste à déployer une capacité d'ouverture à ce qui se passe maintenant. Et c'est tout un processus, c'est un art. Il n'y a pas une recette, il n'y a pas une technique. Et tous les grands maîtres, du Bouddha aux autres, ont toujours beaucoup insisté sur le fait qu'il n'y a rien à croire, ce qu'on raconte, ce qu'on lit, et tout à explorer, à expérimenter par soi, puis voir ce qui fait sens pour soi, et comment on prend des choses, elles résonnent, on continue un bout de chemin, le reste on le laisse de côté, puis ensuite on revient dessus, puis on en a une nouvelle compréhension, puis on continue. Voilà, on est nos propres maîtres, et notre expérience, et l'instant est notre propre maître aussi, on chemine avec ça. Et quand on offre du coup notre présence, bien sûr, on fait tout ce travail, ça peut être très introspectif, ça peut sembler juste pour soi, mais en fait, pas du tout. Parce qu'après, quand on offre notre présence, on offre en même temps toutes ces qualités autour de soi. De générosité, de pouvoir se réjouir pour l'autre, de pouvoir être à l'écoute, sans avoir besoin toujours de rajouter son grain de sel. Voilà, on est plus disponible. Et ce processus de libération qu'on appelle les kilesas, ces impuretés qui opacifient l'esprit, ces attachements, toutes ces choses-là. Et on peut le manifester à chaque instant. C'est pas qu'il y a un truc ultra lointain, ou peut-être d'après, quand j'aurai médité 20 ans, enfin, je vais être un peu plus sage, j'en sais rien. Non, c'est quelque chose de direct. C'est un chemin immédiat qu'on peut exercer. Hein. Il ne s'agit pas d'atteindre l'éveil, mais de le manifester à chaque instant. Puis on peut, à chaque instant, se questionner. Est-ce que je suis là? Ok. Comment est-ce que c'est? Ok. Comment est-ce que je me lie à ça? Réactivité par réactivité, aversion par... Peu importe. Mais le fait de voir, ça nourrit cette pleine conscience et ça manifeste l'éveil en nous. Et à chaque instant, on peut le faire. Parfois, ça s'ouvre, puis parfois, ça se referme. Et encore, et encore, et encore, et encore, et on continue. Et toujours. Et par moments, effectivement, tout d'un coup, les choses s'apaisent dans le cœur, dans l'esprit. Une forme de quiétude, d'ouverture à l'inconnu, l'incertitude est juste là. Et on peut voir l'esprit se révéler à lui-même, c'est-à-dire l'esprit tel qu'il est, la conscience juste originelle, élémentaire. Dans l'Advaita Yoga, on parle de la conscience silencieuse. Dans d'autres traditions, dans le Muay Thai, de la forêt, certains parlent de la conscience intuitive, ou de l'esprit originel, ou du point immobile, ou du son du silence. Peu importe les noms, mais on peut juste être au contact de ça, et pas de voir que tout se recolore et tout change. Donc c'est pas un truc linéaire où on est dans l'aveuglement, puis un beau jour tout s'éveille et puis on y est. C'est vraiment quelque chose de continu, puis ça s'ouvre, puis ça se fait. Puis là, j'étais éveillé, je pense, 4-5 secondes, puis ben maintenant, je ne me suis plus trop. Puis on recommence. C'est Ajahn Chah qui dit « Le but de la pratique est de rechercher à l'intérieur, de pénétrer en profondeur, jusqu'à retrouver l'esprit originel. C'est l'esprit sans attachement, qui n'est pas altéré par les objets mentaux et qui ne recherche rien d'agréable, ni de désagréable. Il demeure continuellement dans un état de présence attentive, pleinement conscient de tout ce dont il fait l'expérience. Quand l'esprit est ainsi, il ne devient rien, et rien ne peut l'ébranler. Pourquoi? Parce que la conscience est présente. L'esprit se connaît comme étant pur. Il a atteint son état originel d'indépendance. Et quand on est là, par moment, on peut comme... On se rend compte finalement qu'on ne contrôle pas grand-chose. Que tout peut changer, mais qu'il y a une sorte de confiance qui est là, une forme de cœur équanime à ce qui se passe, à comment c'est maintenant et puis comment ça peut tourner. Et c'est quelque chose d'inébranlable, en fait, finalement, qui ne dépend pas de conditions. Et finalement, on voit qu'on ne contrôle pas grand-chose et qu'on ne sait pas grand-chose, mais que ça peut être OK. Et ça, quand on peut sentir ça et toucher ça, il y a quelque chose de très stable et de très résilient qui peut rester en soi. Et je vais terminer par cette parole de Jack Kornfield. La sagesse ne consiste pas à connaître, mais à être. Les mystiques chrétiens enjoignirent aux chercheurs de pénétrer d'un cœur confiant le nuage d'inconnaissance. Le cœur sage n'est pas celui qui comprend tout. C'est un cœur qui peut tolérer la vérité de ne pas connaître. La sagesse devient vivante en présence du mystère, quand le cœur est ouvert, sensible et totalement réceptif. De cette simple présence, l'empathie, l'amour, la sensibilité et toutes les choses bonnes apparaissent.